J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue à cette édition 124 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et aujourd'hui, les plaisirs règnent malgré le sujet, ma foi, un petit peu morbide. En fait, on continue la thématique qu'on avait entamée la semaine dernière avec les décès, qui est non pas à prendre à première vue sur cette idée d'une célébration, mais plutôt sur le climat de 2016 et qu'est-ce qui nous a légué face à notre rapport à la mort. Donc, la semaine dernière, on a parlé avec Nadia Sarayoko, Elisabeth Simpson et Hélène Lorrain sur comment on a repensé la mort suite à 2016, suite à la grande faucheuse qui représente 2016. Mais pour la deuxième émission, si on peut dire, dans ce petit diptyque, on s'est dit qu'on amènerait l'humour. Il faudrait qu'on bring in the lol sur ce grand décès qui était 2016. Et rien de mieux pour parler de l'humour et de la mort que de souligner le passage passage au trépas d'une figure extrêmement importante pour nous à Pop en Stock et aussi individuellement pour chacune des personnes qui participent à l'émission. C'est un truc que j'ai constaté et que j'ai mentionné un peu la semaine dernière, cette idée-là que au fil de l'année... sans tambour ni trompette, au fil de 2016, les gens ont de moins en moins livré des ovations intimes et personnelles par rapport au décès. On a commencé avec Bowie, on a commencé avec Mohamed Ali, et ainsi de suite. Les gens étaient encore dans une idée testimoniale, si ça se dit, testamentaire, ou de l'ovation, de dire pourquoi ces personnes-là sont importantes, et ça s'est tranquillement perdu, ça a comme glissé du terrain jusqu'à octobre, novembre, décembre, où tout décès était essentiellement accompagné d'un grand « fuck you 2016 ». On avait comme déplacé le shift de la personne qui est décédée et les souvenirs que ça vient nous faire ressentir, les souvenirs, l'évocation des moments, de l'importance, tranquillement à passer à comme une espèce de colère sociale où tous les gens accusaient l'année des grands décès. Je dis ça.
Non, mais tu dis ça comme en disant, bon, on va faire quelque chose d'un peu drôle, puis t'es super lourd.
Mais tout ça sauf Marcel Gottlieb, qui est le sujet de l'émission 124.
Ah!
Et qui est très drôle, en fait, parce que ce que je constatais, c'est à quel point, puis j'aimerais ça pouvoir un peu extrapoler sur cette idée-là. J'ai rapidement, face à son décès, eu à faire une synthèse pour une chronique à la radio. Une synthèse personnelle, ce que j'ai constaté, c'est qu'il est important pour plein de gens. Il est important, comme je disais, non pas simplement pour le groupe qui est Pop en Stock, mais pour tous les gens qui le constituent. Il est important et de manière différente. Mais rapidement, pour essayer de décrire pourquoi il est important, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est David Bowie. C'est le David Bowie de la bande dessinée. Et en disant ça, j'avais l'impression de mettre le doigt sur quelque chose, sans toutefois être capable de vraiment extrapoler son idée. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que Gottlieb est la personne qui nous a fait comprendre la fluidité. Et la fluidité dans sa conception la plus métaphysique.
Là, je t'interromps, puis je pense qu'on s'est dit qu'on allait faire ça souvent, s'interrompre en hommage justement au travail et au style de Gottlieb. Mais là, Gottlieb, d'ailleurs, on va le souligner probablement à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui pratiquait énormément le calembour.
Oui.
Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que moi j'adore Gottlieb et je déteste les Canembours, mais là quand t'as dit, c'est que vous avez appris la fluidité, t'es conscient que c'est le créateur de fluide glacial.
Mais oui, c'était ça okay. La joke.
As-tu gâché le punch de Jim? Là?
Ben j'espère que oui.
Ah, nice.
Cette affaire, ouais. Mais c'est pas super parce que Gabriel Tremblay connaît mon genre.
Ouais, c'est ça, vas-tu me présenter?
Ben oui, ouais. Il fallait que j'arrive à la fin, il faut qu'il y ait une introduction.
Est-ce que tu veux finir d'ailleurs?
Je vais finir, mais où?
Quand?
Quand je vais finir.
Okay. Moi, à date, j'adore ça. Là.
C'est ça.
Je trouve qu'on torche Gottlieb en ce moment. Là.
Non, mais il y a une introduction et à la fin, je fais. Et c'est pour ça que je suis content d'être en studio avec des bons amis parce qu'on va être émotif. On va revenir sur notre passé de bande dessinée. Je suis content d'avoir Gabriel. Je suis content que Boris soit ici. C'était ça la conclusion de mon introduction. Là, il faut que je revienne à mon introduction.
Ben oui, je t'en prie.
C'est ça. Mmh. C'est, cette idée-là de fluidité qui est à la fois dans la façon de faire la bande dessinée parce que tout était. Un ramassis de références, il n'y avait rien qui était haut, il n'y avait rien qui était bas, tout s'égalait dans le monde de Gottlieb. On pouvait utiliser de la haute voltige de lumineuse philosophique, comme on pouvait parler du registre des insectes. En même temps, il nous a montré que toute la bande dessinée cohabite, que ce soit dans le registre du super-héros avec Superman, allô?
Oui.
Ouais, c'est parce que vous parlez, ça fait que j'ai comme éteint les
micros. Non, on parle pas.
Ah, OK, mais c'est parce que vous...
Non, mais un peu comme la coccinelle dans la rubrique avec, nous, on se fait comme notre sideshow un peu.
Mais c'est de ça que je suis en train de parler.
Mais on le mime.
C'est ça. Mais okay. Vu que c'est la radio, les gens ne le sauront pas, fait qu'il faut qu'on le dise. Fait que ben, merci d'avoir
insisté sur le gag, c'est ça.
Non, ouais. Mais j'essaie de faire mon introduction, puis vous me déconcentrez.
Ouais, mais là, justement, on est comme si on te laisse en paix.
OK, OK, c'est bon, vas-y.
Mais et c'est ce qui, à mon avis, amenait le... Mais là, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute.
OK, arrête, Gabriel.
Ben, les auditeurs t'écoutent, là. OK, non, j'arrête.
C'est vrai, il y a des auditeurs.
Oui.
Tu vas me le montrer après, Gabriel.
Oui.
OK.
Non, c'est correct. Non, mais c'est l'autre page d'après.
OK.
Bon. Il a... été pour plusieurs personnes, c'est comme la première bande dessinée, puis bon, dis-moi là si je me trompe, mais on n'a pas compris que la bande dessinée pouvait faire plein de trucs avec Watchmen. On le savait un peu avant.
Ah oh, oui, oui, oui.
C'est Gottlieb qui nous l'a appris.
Ah oh, oui, oui, oui.
Moi,
oui,
j'ai,
oui.
J'ai vraiment compris avec Gottlieb que la bande dessinée pouvait être hystérique, puis que ça pouvait dégénérer, puis...
que ça pouvait être intelligent, puis ouais. Ça pouvait être...
Ça, les amis, nous, on l'a compris comme lecteurs, mais les artistes à l'époque... l'ont compris avec Gottlieb aussi. Là. Gottlieb a comme donné la permission à tout le monde de dire « OK, on va s'éclater. »
Mm. Oui, oui, exactement.
Donc vraiment, là...
C'est en s'éclatant que je suis content de faire cette émission ici avec mes collègues Gabriel Tremblay-Godette. Bonjour.
Salut.
Professeur Agent Heude. Voilà! Et Boris Nonveille, libraire extraordinaire.
J'accepte.
J'ai hâte à demain. C'est demain quand je vais chercher mes comics...
Cool, on va jaser de comics aujourd'hui et demain.
C'est fou, hein?
Yes.
Donc, l'émission, je vous la donne.
Cool.
Merci.
Je suis comme un peu déstabilisé par ce momentum.
OK, dans ce cas-là...
je peux y aller.
Attends, Gottlieb est né le...
Ah oui, fallait-tu vraiment faire une introduction? Tu vois...
Ben, je vais être honnête avec les gens parce qu'effectivement, comme on mentionnait, ce n'est pas un médium visuel, mais en préparation de l'émission, je m'étais dit, ah, ça serait quand même bien de retracer la vie, l'œuvre et l'homme. Et comme tu l'as mentionné, en fait, le décès de Gottlieb m'a plus affecté que tous les décès.
Ben oui.
En 2016, je veux dire, comme j'ai beaucoup d'admiration pour Mohamed Ali, mais on s'entend que j'étais pas vivant du temps de. Il a pris sa retraite avant que je naisse. David Bowie, je le connaissais, mais vraiment de loin. Et Gottlieb, étonnamment, en fait, il avait pris sa retraite du dessin et il faisait des dessins de temps à autre, mais sa grande période créative était finie depuis une trentaine d'années au moins.
Aisément, oui.
Ouais, pas mal.
Ouais.
Donc, mais quand j'ai vu, j'ai comme réalisé, ça m'a vraiment fait de la peine et je me suis dit, mais mon Dieu, comme je vais... Tu sais, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et je suis allé, en fait, j'ai découvert qu'il avait écrit deux autobiographies.
Mm-hmm.
Une qui s'appelle « J'existe, je me suis rencontré ». Qui, en fait, pour nous, est comme, mais quel titre l'est? Faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu une autobiographie par un auteur dont j'oublie le nom, qui s'appelait « Dieu existe, je l'ai rencontré ».
Ah, OK.
Donc là, bon, c'était quand même... Dans ce cas-là, on comprend le jeu de mots, et ça reflète d'ailleurs le narcissisme assumé de Gottlieb.
Ouais.
Et donc, mais il a publié un autre livre en 2007 qui s'appelle « Ma vie en vrac », qui en fait c'est plus comme entretien, là, c'est un auteur qui a comme fait un peu son hagiographie avec quelques remarques de Gottlieb. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses, mais le moment où j'ai fait ah, je l'ai vraiment fait comme ça à voix haute, là, comme j'avais ma chatte qui était comme assise sur moi, puis elle s'est levée en panique parce que j'ai comme crié, là, ça arrive rarement en lisant, mais Gottlieb en fait dit honnêtement, j'en ai chez moi des albums de Tintin, mais j'ai jamais été capable d'en finir un. Comme j'en ai lu deux, mais dis-moi là, ça m'ennuie au plus haut point. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai lu là comme tout le monde les Tintins, et moi j'ai aucune gêne à dire que je n'ai aucun intérêt pour Tintin. Et quand Gottlieb a dit ben moi justement ce dessin-là qui est tellement sec, qui est tellement efficace, qui veut qu'on comprenne, puis qu'il y a rien qui entrave la compréhension, puis qu'on passe à la case suivante, puis que tout soit livré. Dis-moi, ça m'ennuie comme la pluie. T'sais. Au contraire, moi, ce que je veux faire, c'est des conneries. Puis je pense que dans le livre, justement, Ma vie en vrac, les mots qui reviennent le plus, c'est conneries et gags.
Ah ouais.
Donc lui, il est comme, dis-moi, je fais des conneries entre amis. T'sais, lui-même, en fait, le succès qu'il a, même si, donc, c'est ça, il est assez narcissique, il se met en scène et en mots constamment dans ses œuvres, lui, il semble pas avoir une autre estime de lui-même. T'sais, quand les gens le rencontrent, il était toujours, ah, Gottlieb, fait nourrir, il est un peu comme, ben, calmez-vous, là, tu sais. Pis c'est drôle parce que justement, je me suis dit, mais quelle perte, parce que, bon, faut reconnaître quand même là, toute l'importance d'Hergé, mais Hergé, c'est vrai qu'il était plate, là, je veux dire, je me suis jamais dit, ah, je vais lire une entrevue d'Hergé, j'ai l'impression que si je rencontrais Hergé, la première chose qu'il me disait, c'est est-ce que t'as mangé des légumes aujourd'hui, tu sais.
Ouais,
alors que Gottlieb, même si de toute évidence, il pouvait être un peu plate en personne, je veux dire, ses dessins, c'est lui qui m'a comme appris à rigoler, puis dans ma vie, en vrai, il y a plein de témoignages de beaucoup de gens qui sont comme, mais là, tu sais, lire la rubrique à Braque, c'était comme, on attendait un épisode dans le pilote à chaque semaine, il a fait énormément.
Ben oui, c'est ça, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui... Il y a deux trucs que je trouve que son décès a fait jaillir, en fait, de sa biographie. Un, le fait que c'est un survivant de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais c'est dit, alors, Jim, tu coupes la parole. Donc,
non,
Gottlieb est né
vrai.
En 1934. Non, effectivement, donc je te coupe la parole et je prends la balle au bon. J'ai, en lisant ça, je me suis dit, il faudrait qu'on parle de sa vie, son œuvre, mais honnêtement, j'ai pas ses dates par cœur, et là,
voilà.
C'est un médium, ce n'est pas un médium visuel, je vous dis qu'officiellement, je suis devant son Wikipédia,
ouais.
Et que ce serait complètement inutile et ennuyant de faire les dates, parce que vous êtes capable de faire ça chez vous.
Ben, si vous voulez les dates, vous savez où les trouver.
Ouais. Mais bref, il a effectivement, c'est un enfant un peu de la Shoah, donc son père est mort dans les camps.
Mm-hmm.
Sa mère a longtemps espéré que son père n'allait pas accepter le décès de son père avant là, des années. Donc il a vraiment eu une enfance extrêmement tragique.
Ouais.
Là, qu'il soit devenu rigolo comme ça, c'est quand même assez hallucinant.
D'ailleurs, vous rappelez-vous, il a fait une chronique là-dessus, une chronique de deux pages qui commence comme un gag un peu stupide, folklorique. Parce que souvent, ces chroniques commençaient comme... Ben, c'était comme des comptines, puis il y avait des refrains, puis tout ça. Puis là, il raconte sa jeunesse. La chronique s'appelle « Sur l'air du Traderidera ». Et il raconte comment, quand il avait 8-10 ans, il y avait un ami qui lui a appris une comptine qui s'appelait... qui allait comme suit. « Le blismouti, le bliscouti ». Oui, les blismouti, la biscotti. Puis là, il comprenait pas ce que ça voulait dire, mais il se disait, bon, ben, c'est comme piquer, piquer, collégramme, on s'en fout. Puis là, ça devient comme le refrain de son histoire, de son enfance. Le blismouti, la biscotti. Oui, le blismouti, la biscotti, c'est l'orage dehors au loin. Mais dans l'étable, je suis bien, silence, obscurité, chaleur. Et là, il va raconter comment ses parents sont partis à cause de leur âge, puis là, il habite chez un sorte de fermier. Je sais pas si c'est son oncle ou...
Peu non, importe, ben puis... en fait, il a été pendant l'occupation des Allemands, sa mère est allée le placer dans une famille en campagne. Elle payait littéralement là, des campagnards pour dire « vous allez abriter... Nos enfants
mon
juifs.
Mon petit Marcel.
Puis là, finalement, on lui dit qu'il peut pas aller à l'école à cause de leur âge. Et puis, il fait OK, ben, va garder la chèvre dans la grange. Et qu'il va garder la chèvre dans la grange. Puis, il continue son refrain. Puis, le refrain revient à la fin de chaque strip. Puis, finalement, à la fin, il apprend que la comptine voulait dire le blé se moutille, la bille se coutille. Oui, le blé se meut, la bille se coue. Quel rapport? Il y en a pas tellement, mais on apprend aussi que ça se passe en 42, puis là, on fait le lien avec l'orage, on fait le lien avec ses parents, et puis la grange, puis la comptine qui fait pas de sens, puis qui finalement prend un autre sens, ben c'est un peu ça aussi, la date qui revient, puis le quelque chose dont t'es pas conscient, puis finalement tu fais le clic, puis t'es comme ah, c'était l'Holocauste. Puis je pense que c'est tant pour le lecteur que pour lui aussi qui réalise. Puis c'est très beau là pour une chronique qui est supposée être stupide. C'est il y a à la fois de la stupidité puis de la poésie dans ces chroniques, puis c'est ça que je
c'est le fun que tu sois venu. Bonjour, salut Boris.
Hey, salut. Comment
je suis vraiment heureux que tu sois là. C'est on était supposé te faire dans l'humour, puis tout, tu parles de l'Holocauste.
Ouais, mais c'est ça, Gottlieb, c'est que, comme, il fait des jokes de pète, puis deux minutes plus tard, il parle de l'Holocauste, puis après ça, il va faire des jokes, je sais pas, là, il va faire des jokes de Père Noël, puis du Petit Pousset, puis après ça, ben, ça va être l'innocence de l'enfant perdu parce qu'il grandit, puis c'est comme, what? Qu'est-ce que je viens de lire là?
C'est fluide, hein?
Mais c'est un peu glacial de faire des blagues de ce type-là.
Oh.
Quand même. Puis un autre truc qui est quand même peu souligné, mais qui a été souligné suite à son décès, en fait, comme je vous disais, c'est sa participation dans à peu près toute la bande dessinée franco-belge. Il y a très peu de lieux où il n'y a pas l'empreinte de Gottlieb. Oui, définitivement dans l'influence, mais dans la fondation de magazine, dans les conversations, les gens qui ont encouragé à faire la BD, il était partout.
Ben, je pense que c'est un bon moment pour reprendre la biographie. Donc, après une enfance difficile, donc Gottlieb est quand même pas mal un autodidacte. Là. Il a fait des emplois de bureau, puis il faisait des dessins dans des coins, puis finalement, il a commencé à être engagé. Il a publié d'abord dans Tintin des trucs pour la revue Vaillant, aussi des trucs pour l'enfance, et éventuellement... Mais lui, son rêve, c'était d'aller à Pilote de travailler avec la légende René Goscinny. Et quand il a commencé, il a dit « Bon, mais là, je vais enfin oser, puis je vais envoyer, tu sais, je vais montrer des gags à Goscinny. Peut-être qu'il va aimer ça, tu sais. » Puis Goscinny était comme « Mais moi, j'osais pas te le demander, mais c'est sûr que je veux travailler avec toi, tu sais. » Faut savoir aussi, Goscinny, il scénarisait pour énormément de gens.
Mm-hmm.
Et dans son autobiographie, donc Gottlieb, il dit « Ben moi, n'ayant pas eu de père, mon père spirituel, puis c'est comme évident comme ça, j'ai même pas besoin de faire beaucoup de psychanalyse, comme c'était. T'sais, Goscinny, mon père, je voulais l'impressionner, là. Donc, ils ont travaillé sur une série, les Dingos Dossiers.
Mm-hmm.
Puis ça a quand même beaucoup, je veux dire, ça fait partie des grandes, selon moi, des grandes réussites de Goscinny qui a été capable de d'écrire spécifiquement pour différents dessinateurs, puis de bien les faire fonctionner, les amener à leur maximum. Goscinny travaille avec Gottlieb, puis justement, Gottlieb était comme « Je vais proposer des choses, puis si je propose quelque chose, puis ça le fait rire, je veux dire, ma journée est faite, je m'en fous après ça que ce soit publié, si lui rit. »
C'était-tu eux autres, les
Gaulois?
Non, mais
désolé, Goscinny, la porte était ouverte.
Mais c'est ouais, ça, Gottlieb et Goscinny, les Gaulois, c'était-tu eux autres, les
Gaulois? Non, je pense pas.
Non.
Ben j'aime l'idée, je pense pas que c'est vrai, ça, mais l'idée est excellente.
Ben, c'est une excellente fan theory, en tout cas. J'ai l'impression que c'est fondé dans absolument rien. Mais peux-tu couper au montage le fait qu'on le nie? On pourrait juste faire comme « Oui, c'est ça, exactement! »
Je voulais
devrait arrêter l'émission-là parce que ça va jamais être aussi bon.
Non, c'est ça.
Merci. Hey, Boris, t'es là!
Allô!
Je suis vraiment content de te voir.
Ouais, aussi,
c'est vraiment intéressant. Un autre truc qu'on souligne pas assez souvent, mais qu'on souligne...
La présence de Boris?
Bah, je pense qu'il voulait comme amener le running gag, là, la répétition puis le running gag.
J'étais rendu là, ouais. Parce que là, effectivement, j'avais pas de troisième truc.
Uh-huh.
J'étais juste dans le...
Go on.
Ouais, non, j'en ai
pas. Ah, c'est tout? Ah, ok. Ouais. Tu voulais juste finir avec le running gag.
Non, mais faire le Charlie Chaplin, c'est pas l'humour si t'en fais deux. C'est l'humour quand t'en fais trois.
Ouais.
C'est toujours la règle de trois, là, en humour. Fait que je me suis dit que...
Qui a dit ça?
Chaplin?
Pas juste.
Chaplin a dit ça?
Je sais pas. Chaplin parle pas, c'est vrai, il est mieux.
Ouais, on pourrait aller voir sur Wikipédia puis le lire aux auditeurs. Ouais. Je pense qu'ils trouveraient ça malade.
Mais il y a une règle de trois en humour.
Ah.
Ben, en tout cas, il y a une règle de 1842 chez Gottlieb parce que, tu sais, c'est gag de Isaac Newton puis de comment vas-tu yo de poil puis moi j'ai
les évolue yo de poil
oui comment vas-tu yo de poil tu yo de poil ouais oui. C'est un gars qui revient souvent puis moi je me suis tapé les rubriques à braque pour me préparer pour l'émission puis ça m'a fasciné à quel point c'est redondant mais je veux dire on s'entend pas de cette joke là Isaac Newton qui revient je pense 80 fois par tome dans les rubriques à braque puis il réussit à le renouveler à chaque fois puis
mais on pourrait, c'est ça en fait, ce qui est assez, moi aussi en les relisant, j'ai comme fait un espèce d'inventaire mental de la palette avec laquelle travaillait Gottlieb dans la rubrique à braque, pis c'est ça, c'est quand même assez restreint. Tu sais, c'est la blague du fou qui repeint son plafond, Pas mal, tu sais, des calembours qui reviennent souvent. Isaac Newton, la coccinelle qui demande si on a des brocolis pour faire du minestrone. Puis effectivement, comme même si on la voit venir, là, tu sais, à ça, des, on la voit venir comme trois coins de rue d'avance, ça fonctionne quand même
mais,
toujours.
Mais je dirais pas que c'est restreint, par contre, parce que après ça, il va aller dans la science-fiction, il va aller là, il va aller là, puis il y avait des obsessions qui revenaient. Mais les gags, les running gags, oui, ça, c'est ça.
Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est la récurrence de certaines, puis qui justement était drôle, était d'autant plus drôle que t'étais comme, mais je pensais pas que tu pouvais encore faire une blague d'Isaac Newton, puis j'allais être comme, ben c'est non, ben
puis à un moment donné, tu l'attends, puis là, tu t'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire avec, puis il y a même une chronique où... je pense que c'est la malédiction, la sculpture maudite, que il commence à parler de la sculpture, puis là finalement ça devient psychédélique parce que la malédiction de la sculpture fait de telle manière que elle sort de la bande dessinée puis qu'elle affecte Gottlieb, puis là il se met à faire n'importe quoi, puis le gag finit avec une espèce de schizophrénie, puis il y a une note qui dit que ça finit en avance. Le gag finit en avance, puis là, il reste comme un fond de page. Puis là, il y a Isaac Newton, puis la coccinelle, qui sont comme... Ils se regardent, puis ils sont comme... Ben là, on fait quoi, nous autres, là-dedans?
Mais ça, d'ailleurs, c'est le truc aussi que je pense... Un des principaux legs de Gottlieb, c'est d'avoir... Parce que quand on pense à cette époque-là, oui, Goscinny est comme un peu le maître à penser qui a lancé plein de trucs, qui travaille avec plein d'artistes à ce moment-là, puis qui travaille sur plein de trucs légendaires. Mais donc, à un moment, les deux hommes, il y a eu une espèce de séparation, mais c'est Goscinny qui a comme incité, qui a dit à Gottlieb, bon, mais on fait les dingos dossiers, tout ça, mais t'es assez bon pour travailler tout seul. T'sais. Donc, va vole de tes propres ailes, fais la rubrique à Braque. Et c'est à partir de ce moment-là que Gottlieb se met en scène. J'écoutais aussi en préparation, il y avait une entrevue avec Gottlieb, puis dans la présentation d'auteur, on disait, ben, c'est l'inventeur de l'autobiographie en bande dessinée. Puis j'étais comme, ouais. Mais en fait, puis probablement que des fins sérieuses pourraient dire, non, il y a déjà eu des artistes qui sont mis en scène, mais un peu de la même manière dont le terme graphic novel existait avant Eisner, mais Eisner l'a comme entériné.
Ouais.
Gottlieb, c'est vraiment un artiste qui se met en scène, mais qui est tellement présent, en fait, quand on y pense, les doubles pages de la rubrique à Braque commencent presque systématiquement par un texte. Et c'est Gottlieb qui nous parle. Donc, il est toujours en train de mettre sa voix à l'avant-plan, de s'installer dans le récit, de dire, bon, ben voici, puis là, il fait des petites blagues. Il va aussi se mettre en scène, donc toujours, là, avec ses lunettes, éventuellement ses lunettes fumées, son petit nez troussé, ses favoris, éventuellement. Donc, se mettre comme ça à l'avant-plan, c'est aussi pour les artistes. T'sais, les artistes ont commencé à faire « Hey, nous aussi, on a le droit de faire ça. On n'est pas obligé de se cacher dans nos personnages. »
Absolument, absolument. Puis c'est ça, encore dans les legs et les influences, tu le vois, là, l'autobiographique, mais aussi même l'insertion.
Moi, j'irais même jusqu'à dire l'autofiction.
Oui.
Parce que à un moment donné, c'est des jokes, mais des fois, on le sait pas. Tu sais, comme l'histoire que j'ai racontée tantôt avec la Deuxième Guerre mondiale, ça, on le sait que c'est vrai, mais... À un moment donné, il raconte comment ses parents étaient charbonniers, puis ils voulaient pas qu'il s'en aille au dessin, puis tout d'un coup, ils voulaient qu'il soit charbonnier comme eux autres, puis là, tout d'un coup, il devient un artiste maudit, puis là, il se compare à... Il dit « Je serai Fred ou rien », comme Hugo disait par rapport à Chateaubriand. Puis il cite aussi Balzac, là, comme il arrive à Paris, puis il dit « À nous deux, Paris ».
Oh.
Puis finalement, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais il en arrive. La chronique s'appelle, je pense que c'est la naissance, l'histoire d'une naissance. Puis ça va être comme la naissance de l'artiste. Mais non, finalement, en fait, il va nous raconter comment il a inventé Isaac Newton et le personnage et la personne.
Wow!
Puis finalement, ça n'a aucun rapport avec lui.
Puis il y a aussi des moments, il l'a fait notamment dans la rubrique à Bac, où il fait des témoignages personnels, comme il y en a un qui s'appelle le boulet. Et il raconte comment, bon, je me suis réveillé un matin, puis j'ai un boulet, puis il me suit partout. Puis en fait, Gottlieb était très dépressif. Donc, et là, il explique que, bon, là, il y a un bébé éventuellement qui arrive, et que là, le bébé est capable de... Il coupe le boulet, puis ça le fait flotter. Puis en fait, ça, c'est justement... C'est, il dit, ben, moi, c'est quand mon enfant est né, j'ai arrêté, tu sais, ça a changé ma perspective dans la vie. Puis pendant un moment, j'étais moins dépressif. J'ai moins fait de migraines,
puis et là, tout ça. Puis illustré comme ça.
C'était assez d'autant plus étonnant que c'est un des... C'est vraiment un moment dans sa carrière où là, le Gottlieb est dans vraiment à son rythme de croisière. Ses rubriques à Braque sont de plus en plus drôles. Il a vraiment raffiné son style et c'est hilarant. Puis là, il arrive avec un truc comme bon, ben cette semaine, il n'y aura pas de gag. Tu fais comme, mais qu'est-ce que c'est? What? C'est bien plate. Là.
C'est beaucoup de confiance. C'est beaucoup de confiance aussi dans sa voix. qu'il peut se permettre. On va plus tard, au courant de l'année, faire une émission sur Steve Gerber. Mm-hmm. Il y a des parallèles à faire avec ces deux artistes-là. Des gens qui sont, oui, effectivement, pas super bien avec eux-mêmes, mais qui réussissent des véritables moments transcendantaux dans leurs œuvres. Un truc aussi par rapport à la voix que je voulais vous mentionner, c'est cette idée, puis confirmez ou infirmez-moi si j'ai tort ou raison, puis comme vous voulez, là, même si j'ai raison, vous avez le droit de dire que j'ai pas raison. C'est lui qui a commencé la tradition de faire des petits dessins sur la table des matières des rubriques à braque, ou des fluides glaciales, pardon.
Et dans la rubrique à braque aussi, il le faisait.
Il le faisait.
Oh, oui.
Et que de plus en plus que ça avançait, de plus en plus que tous les artistes qui participaient au fluide glacial devaient faire des petits dessins. Et ça faisait en sorte que les artistes devenaient de plus en plus reconnus, non pas par les planches qu'ils avaient produites pour le fluide glacial, mais que tu pouvais ouvrir la table des matières puis voir, ah oui, il y a le concombre masqué, ou ah oui, il y a tel ou tel ou tel personnage. Puis on faisait un rapprochement beaucoup plus intime entre la BD qui était faite et l'auteur. Chose que peut-être qu'on avait moins en bande dessinée européenne, puis qu'on n'avait pas du tout en bande dessinée américaine à cette époque-là. Je pense que c'est peut-être ça, cette idée d'une naissance de l'autobiographie en comic.
Ben, encore une fois, je sais pas si c'est lui qui a commencé cette pratique-là, mais c'est très certainement justement le fait qu'il a fait qu'il est tellement bien fait, on peut lui en attribuer, d'une certaine manière, la création, comme, ben en fait, là, puis le dessin dans le dessin, l'espèce de récit parallèle qui est inauguré avec la coccinelle dans la rubrique à braque. Il y a vraiment d'autres gens qui faisaient ça, là, comme des trucs se passant en background, mais comme quand, justement, là, quand on lit les témoignages, notamment dans Ma vie en vrac, les artistes qui disaient, ben, moi, j'ai commencé à le faire 2 semaines plus tard. Mm. Puis, tu sais, comme, il faudrait peut-être voir, parce que je sais que Mandrika, l'auteur du concombre masqué, lui, il avait une espèce de petit crapaud qui se promenait et qui disait « Oh, Mami Blue
mm-hmm. ».
Peut-être qu'il l'a fait une semaine avant... Peut-être qu'il l'a fait une fois avant Coccinelle, mais, tu sais...
Bon, on s'entend que Gottlieb l'a honné.
Ouais, c'est ça, là. Puis, tu sais, même, en fait, on en parlera éventuellement, mais Ra Lovely et Ra Nganga, qui sont comme les... ce qu'il a fait après, donc dans l'écho des savanes et fuites glaciales, mm-hmm. après la rubrique à braque, son passage vraiment à la bande dessinée pour adultes, ben Ra Lovely, ça vient de Mandrika. C'est comme un truc qu'il avait écrit. En fait, je pense que la première occurrence, c'est dans Cinema Stock qu'il faisait avec Gottlieb faisait avec Alexis.
Mm-hmm.
Et c'est un gag qui avait été soufflé par qui est Mandrika, où quand deux personnages faisaient l'amour, ils disaient Ra Lovely systématiquement. Là, Gottlieb a fait comme oh, ok, je vais me mettre à utiliser ça. Puis maintenant, tu dis Ra Lovely, c'est Gottlieb. Là, uh-huh.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est comme s'il avait aspiré, en fait, là, les meilleurs éléments. De la même manière, tu sais, Fred, il a vraiment beaucoup travaillé le côté la métafiction, joué avec la construction des planches d'un personnage qui passe d'une case à l'autre. Puis Gottlieb s'est mis à le faire, notamment avec les trucs du professeur Burr, puis les animaux, la girafe qui cadre dans aucune des cases. Si tu veux donner un exemple de ça, Fred, Philémon, les gens font ah, ok, mais tu dis, tu sais, professeur Burr, les gens vont tout de suite réagir et comprendre. Là.
Ouais.
Donc vraiment.
On a-tu le temps pour un débat?
Ben oui, on a encore une demi-heure.
Okay. Ouais. Bon, le temps.
Qu'est-ce que le temps?
Je reviens à ma soutenance. Quand j'ai fait ma soutenance à la maîtrise, j'utilisais une case de rubrique à braque. En fait, c'est une case où il y a un clown qui a 6 doigts. Et un des évaluateurs de mon projet maîtrise a été très choqué par le fait que je disais que l'habileté de Gottlieb, c'était d'être capable de récupérer une erreur comme le 6e doigt.
Mm-hmm.
Parce qu'on le sait que le 6e doigt en bande dessinée, ça arrive assez fréquemment que l'illustrateur ou l'illustratrice, ils sont dans la motion automatique de doigt, oups, il y en a un 6e. Dans la case en question, en fait, Gottlieb avait fait un clown, illustré un clown qui faisait un animal en ballon, et il y avait un 6e doigt, et il y avait même une flèche qui pointait au 6e doigt, qui faisait regarder l'erreur que j'ai faite. Et l'évaluateur en question était fâché du fait que j'avais mordu à l'hameçon, du fait que moi, je croyais véritablement que c'était une erreur. Est-ce que vous pensez, parce que je trouve que c'est une question qui est à double tranchant, est-ce que vous pensez que Gottlieb est un artiste au-delà du reproche de l'erreur du 6e doigt, ou un artiste assez intelligent pour être capable de récupérer le 6e doigt de manière humoristique? Débattons, messieurs.
Ben, moi, je dirais que c'est toutes ces réponses, parce que...
Boris, t'as pas le droit de changer les règles!
Ben oui, j'ai le droit, c'est Gottlieb! Il y a pas de règles!
Mon nom,
c'est bien ce qu'il nous a appris, effectivement.
Ouais.
Bon.
Non, mais on peut chicaner aussi, si tu veux, là,
Ça pourrait être drôle.
Quoi?
Ça pourrait être drôle.
Ouais, si tu veux.
OK.
OK.
J'ai quand même l'impression, j'ai un souvenir vague d'avoir vu une fois une planche originale de Gottlieb à Angoulême au musée de la bande dessinée, mais de la vie de ce que j'ai lu sur lui, en fait, c'était un type qui était comme, moi je vais juste faire mon dessin une fois là, genre mon ancrage, quand je vais avoir fini, il va sécher, that's it, je veux pas faire de whiteout, je veux pas. Et puis c'est quand même un type qui était très productif là, quand on regarde pour une carrière qui s'est un peu terminée dans les années 80 parce qu'à peu près arrêté de dessiner, puis qui a commencé dans les années 60, énormément de choses, produisait beaucoup, mais faisait un crayonné rapide, puis quand il passait en l'ancrage, c'est comme son premier jet était parfait. Puis ses collaborateurs, ben ses collègues, en fait, ses amis dessinateurs, tu regardais ses planches, puis t'es comme, mais tu me niaises, comment tu fais pour qu'il soit propre comme ça?
Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui était assez méticuleux, puis qui disait comme d'un certain côté, comme, j'aime dessiner, mais c'est pas mon activité préférée.
Oh.
Donc j'ai pas envie de passer plus de temps qui est nécessaire sur un dessin.
Okay,
donc j'ai quand même l'impression que des erreurs comme le sixième doigt, effectivement, il s'est dit je vais le mettre comme une erreur volontaire puis je vais le reprendre.
T'sais. Ben oui, c'est ça, c'est super drôle de voir non seulement un clown, mais d'être méta-conscient de comment ça fonctionne. Je trouve ça plus drôle qu'il ait fait l'erreur que non.
Mais en même temps, il aurait pu te faire croire qu'il a fait une erreur sans nécessairement l'avoir. C'était peut-être un gars conscient et non pas un rattrapage, mais moi, honnêtement, dans les deux cas, je trouve que ça change rien.
Boris, t'as pas le droit de changer les règles en plein milieu.
Ben, on est comme plus à deux tiers, là, mais...
C'est un bon point. Ben là, deux tiers, non.
Mais qu'est-ce que le temps?
Ouais.
Ouais, il y a ça aussi.
Mais c'est pas... en fait, c'est ça, Gottlieb, c'est pas un dessinateur que je qualifierais, mettons, de spontané. Il y a une grande régularité dans son travail. T'sais, on lit, mettons, ces trucs des années 60-70, puis on sent qu'il est un peu dans l'école. T'sais, il apprenait à faire des beaux personnages qu'il voulait pas trop en les dire, puis qui étaient comme rigolos. Puis... En fait, je relisais les dingos dossiers, où là, on sentait qu'il dessinait pour faire plaisir à Goscinny. Il était comme, bon, ben il m'a pris pour mon style, mais j'essaye mes affaires. Puis je pense que c'est quand il est arrivé à la rubrique Abrac qu'il a commencé à vraiment là y aller avec sa forme de dithérie plastique, son élasticité incroyable, puis ses personnages ont commencé à être en caoutchouc. Mais, donc c'est ça, en fait, c'est comme il a élargi un peu ce qui s'est permis de dessiner quand il est arrivé dans Fluide glacial, tout ça, mais son style, il avait comme trouvé dès le début de la rubrique Abrac, puis ensuite, il a comme juste continué à l'exploiter. Mais c'est pas comme un artiste... comme d'autres, où tu sais, Franquin, tu regardes ses premières œuvres, puis Idées Noires, puis là, ça a énormément bougé. Pour ce qui est du dessin, Gottlieb, c'est beaucoup plus similaire, là.
Ouais, c'est ça, il y a pas... Ça, c'était une impression personnelle, mais je suis quand même content que tu le confirmes. Certains diront atemporel, parce que tu vois 20 ans d'illustration, puis t'es comme... C'est assez difficile de faire une ligne de... Ah non, ça, c'est clair qu'il a fait ça avant ça. Mais...
Ben, je trouve que c'est plus dans le ton... Puis dans, ben tu sais, même dans la rubrique Abrac, tu vois qu'il y a une évolution, ça va plus dans la parodie, puis ça va plus... Tu sais, au début, on est un peu dans l'absurde, puis là, à un moment donné, ben il se permet de... Là, on va parler de science-fiction, là, on va parler de... Puis plus ça avance, on voit aussi, c'est peut-être ses intérêts qui évoluent, mais le rythme est un peu différent, je trouve. Ça devient... Il se permet de plus d'affaires, tu sais, comme... quand il joue à la « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette.
Ah oui.
Puis ça commence que genre, quand il rit, il se tape, puis là, il rigole. Puis finalement, à la fin, il se tire dessus avec des mitraillettes, il s'éventre. Puis, tu sais, je pense pas que t'aurais vu ça au début de Pilote. Là.
Ah non, mais même le dernier ton de la rubrique à braque, là.
Ouais.
Il y a des blagues de proxénétisme, puis tu sais, c'est pas aussi grave. C'est pas la vulgarité... graphique et visuel qu'on a dans ce qu'il a fait pour Fluide glacial et l'écho des savanes, mais déjà c'est un peu plus hardcore là. J'ai l'impression peut-être que tu sais consciemment ou inconsciemment il essayait un peu de se faire dire par Pilote là
ouais.
C'est vraiment plus pour les jeunes ce que tu fais là, comme faut que t'ailles faire ailleurs ce que t'as le goût de faire, t'sais. Puis je suis d'accord avec toi qu'on voit une évolution là, le dessin devient beaucoup plus justement là, t'sais, ça jaillit beaucoup plus. Il y a une fragmentation du texte aussi, je sais pas si t'as... Tu sais, au début, c'est vraiment un phylactère par case, par personnage, puis éventuellement, c'est des personnages qui se mettent à comme... Ils disent en propos, puis là, après ça, oh, quand même, faut pas déconner, tu sais, il y en a qui, à gauche et à droite, comme ça se morcelle beaucoup plus.
Puis à la fin du... Les dernières planches du tome 5, ben finalement, c'est juste des doubles pages, il y a plus de cases, il y a plus... Puis on est complètement dans la parodie, puis dans les fresques, puis dans les... Tu sais, comme il y a une grosse fresque d'une espèce de grosse tête à la Druyer, là, divine, spatiale, qui lance des énormes bulles. C'est écrit en énormes lettres un peu épiques à la fin des années 70. C'est qui le fils de putain qui a mis du savon dans mon scotch? Puis je pense aussi, dans ces pages-là, justement, tout d'un coup, ben, il se garde dans les espèces d'illustrations beaucoup plus détaillées. Puis je pense pas qu'il a refait beaucoup ça par après, là. Puis il fait des espèces d'élan lyrique pour finir avec des punchs vraiment stupides, là, comme...
Ah, oh, mon Dieu, ça, oui.
Il y a l'histoire là, de l'air qui... Ouais.
Illustré par Jean Giraud, mais raconte-toi, parce que...
Ouais, c'est ça, l'air, le paysan, là, qui se promène, puis il y a un scientifique qui veut puiser sa conscience, il veut voir son fond, il va aller dans son subconscient, puis construire une machine, puis là, il rentre dans le fond de son esprit, dans l'esprit de l'air, et puis là, il voit toutes sortes de cauchemars, puis de trucs monstres, bizarres, puis de monstres, puis ça devient comme une espèce d'extrait d'un conte de fées un peu cauchemardesque, d'un livre pour enfants. Puis la morale de l'histoire, c'est que le fond de l'air est frais.
C'est vrai qu'il est frais.
Mais c'est comme... D'ailleurs, moi, un truc que j'ai appris, j'étais convaincu, étant jeune, justement, quand je disais les rubriques à Braque, et qu'il était constamment marqué... Bon, Fred revenait souvent comme super taciturne. Mm. Et quand ça finissait donc par un calembour vaseux, il y avait une note de bas de page, et là, Gottlieb marquait « Ce calembour a été piqué à Fred ». Il disait tout le temps
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Mais c'est-tu vrai?
Non. Fred déteste les calembours. Okay. Fait que là, la première fois où il a comme mis ça un peu par hasard, en fait, je pense qu'il avait fait une espèce de photo, il avait fait un photoroman d'une réunion éditoriale de pilotes, où là, justement, Fred était assis, puis vu que Fred avait un air sévère, il avait mis des cases où il faisait comme faire plein de gags, tout le monde était comme bon, tu sais, tout le monde, ah, ce Fred, quel type hilar, tu sais, pis là, Goscinny qui était comme non, les jeunes, arrêtez ça. Pis là, Fred était à voir, il a dit, man, que tu m'as fait dire des blagues, c'est une chose, mais là, tu m'as fait dire un calembour, pis j'avais ça des calembours, pis Gottlieb m'a fait, oh ouais! À chaque fois, il mettait ça. Pis à chaque fois, Fred était comme, putain, vas-tu arrêter de dire que tu mets ça? c'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est détestable. Là.
Ben, surtout que c'est des calembours très gottliebiens, à chaque fois. Là.
Ah ouais. Mais, quel. Puis en fait, ce que j'ai réalisé aussi à la relecture, c'est que même si, justement, c'est vraiment un dessinateur extraordinaire, là, Gottlieb, il peut se permettre de faire ce qu'il peut. Il peut dessiner des personnages qui sont très beaux. Il y a un bon sens, justement, de faire des beaux hommes et des belles femmes, mais quand je les regarde, je fais jamais confiance à cette beauté-là.
Ah!
Parce que je sais que ce qui s'en vient, c'est un coup de poing dans la gueule, une tarte à la crème, tu sais. Donc le personnage va forcément rapidement être... On l'a dit que ça va se déconstruire, ça va devenir ridicule.
Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait l'illustration de ben, je pense pas que c'est Super Dupont, là, mais l'espèce de je pense que c'est pratiquement une image archétypale là, d'un Superman qui reçoit une énorme tarte avec la crème au visage. C'est pas mal lui, il me semble, qu'il l'a dessiné. Ce qui est devenu un peu comme l'image typique de la France qui se moque des super-héros américains.
Ben non, oui, dans ce cas-là, c'est... Et... C'est parce que Super Dupont, en fait, il l'a créé, il l'a dessiné à quelques reprises, mais initialement, c'était Alexis qui était censé dessiner, faire les dessins. Gottlieb scénarisait avec Loeb. Alexis est mort tragiquement, comme à...
Oh, ouais.
Ah ouais, il est mort à comme à peu près 33-34 ans. Puis Gottlieb, lui, il se voyait vraiment, était comme, moi, je venais de plus en plus scénariste parce que ce que ce gars-là est capable de dessiner, il est tellement meilleur que nous.
Oh.
Et c'est d'ailleurs, Gottlieb parlait avec Alexis, puis il était comme, j'aimerais ça faire un super-héros, puis là, Alexis avait comme fait un sketch, il disait, il pourrait ressembler à ça, puis Gottlieb a fait, ok, c'est toi notre dessinateur.
Wow.
Il a publié 2-3 épisodes, et là, il avait appelé, Alexis vivait à la campagne, Gottlieb avait appelé Alexis pour dire, ah, on pourrait se rencontrer bientôt, puis là, la personne avait répondu, ah, ben Alexis, il est à l'hôpital, tu sais, donc, il te rappellera quand il reviendra. Ouais. Puis il a rappelé 2 jours plus tard en disant, il est pas là, il dit non, il est mort.
Aïe.
Vraiment, c'est un décès foudroyant. Donc là, Gottlieb a pas voulu retravailler sur le personnage, qui est revenu à quelques reprises par la suite, mais sous les traits d'autres dessinateurs.
Boris, t'as pas le droit de changer les règles en plein milieu de même.
Mais là, j'ai rien fait.
Ah ouais.
Mais effectivement, on peut pas faire confiance au dessin de Gottlieb, mais on peut pas faire confiance à son texte non plus. C'est vraiment... C'est une banalité, là, en bande dessinée, mais c'est vraiment les deux, même quand ça se contredit, qui font le sens. Mm-hmm. Et quand je pense à sa chronique sur la hyène, où le professeur Burp, il fait une... un portrait vraiment sombre de la hyène, mais la hyène se met à rire. Ouais. Fait que là, le rire est contagieux, puis là, le professeur Burp se met à dire des choses vraiment macabres, mais d'une manière... Mais en se roulant à terre. D'ailleurs, j'ai noté un bout du texte. La hyène, la monstrueuse, la hideuse hyène est partout synonyme de mort, à tel point que lorsqu'elle lance au clair de lune son cri effroyable, les animaux épouvantés s'enfuient en se signant, car ce cri, en effet, ce cri de malédiction signifie que la créature démoniaque a repéré une charogne. Puis en train de rire aux larmes. Puis finalement, ben, on va apprendre que la hyène, ben, finalement, il va lui demander « Pourquoi tu ris comme ça? » Puis il va dire « Ben, c'est parce que mon oncle est mort la semaine passée. » Puis là, il va la chatouiller, puis là, il va se mettre à brailler sa vie. C'est une belle illustration, justement, du carnavalesque chez Gottlieb.
Ouais.
C'est l'extrême de l'inversion, tout d'un coup. On va pousser une idée très, très simple jusqu'à un bout.
Jusqu'à temps qu'il... Comme Pac-Man, là, jusqu'à temps qu'il ressorte de l'autre côté du tableau.
C'est ça.
Ah.
Ouais.
Mais en fait, c'est ce qui est... La réflexion que je me faisais, ça en préparant l'émission, c'est que justement, bon, personnellement, je considère que c'est ces années-là, à la rubrique à braque, où Gottlieb était vraiment au sommet de son art. Puis là, on sentait que ça le démangeait, donc il devenait de plus en plus corsé un peu mm-hmm. dans ses blagues, dans la rubrique à braque. Il a fait une aventure, donc là, je vais tenter les cours des savanes, donc avec Claire mm-hmm. Bretécher et Mandrika.
Ouais.
Eux, en fait, sous-estimaient complètement leur pouvoir d'auteur et leur popularité. Ils se sont dit, ben, ce serait bien de pas travailler. Au même moment, il y a un conflit éditorial. En fait, il y a plusieurs artistes qui sont tannés, que ce soit Goscinny, que ce soit l'éditeur de Pilote. Et là, ils essayent de... ils font une espèce de mutinerie où ils veulent mettre Goscinny à la porte.
La fameuse réunion.
Ouais, c'est ça. Où Gottlieb était pas présent. Mais ouais. Goscinny s'est senti extrêmement trahi.
Et par Gottlieb, malgré
ben, par ouais, toute la gang,
tout le monde,
c'est
non,
ça.
Ouais.
C'est ça, puis ouais. il a comme dit un peu à Gottlieb, pourquoi tu m'as pas défendu? Puis Gottlieb était comme, j'étais pas au courant, moi. Ouais. Donc là, ça a créé vraiment une espèce de...
Ah.
Ouais, c'est très triste. Puis en fait, les deux se sont très peu reparlés avant, parce que Goscinny aussi est quand même mort un peu soudainement.
Ouais.
Et les deux types qui se vouvoyaient, même en soupant là, le soir avec l'autre, se vouvoyaient, sont pas à peu près deux fois avant le décès, parce ouais, que Goscinny a quand même mangé tout de la merde.
C'est quand même triste.
D'ailleurs, il y a une très bonne bande dessinée sur cette réunion-là qui s'appelle La Révolution Pilote. Ou des BD, c'est sorti il y a genre 2 ans, où il y a des BDS qui essayent de retrouver tout le monde qui était présent à la réunion, puis essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis il parle à Fred avant qu'il meure, il parle à Gottlieb, etc., etc. C'est vraiment cool.
Wow. Puis ils ont fait ça en format bande dessinée.
Oui, ils ont fait ça en bande dessinée, ouais. C'est vraiment genre des entrevues en bande dessinée.
Ah. Je veux lire ça.
Ben oui, moi aussi.
J'ai cool. quasiment envie de me lever puis faire comme j'ai vu que les bains dans une minute, moi je m'en vais acheter ça.
Oh, ben, c'est cool, tu nous laisseras ton téléphone et Wikipédia puis
ouais, c'est
on
ça.
Devrait être correct.
De toute façon, ce que je fais depuis tantôt, c'est vraiment lire sur Wikipédia. Il n'y a aucune idée originale là, qui vient.
On devrait comme finir la mission juste en lisant du Gottlieb.
Ouais, juste
les textes. Ben, puis pas à voix haute, là. On fait juste le lire dans notre tête.
Ouais. Ben en fait, moi j'ai ici, d'ailleurs, on peut comme.
Tabarouette.
C'est un peu dur de comme. Ah ouais, là, vous l'entendez.
C'est fait, c'est
j'ai,
fait. L'expérience multisensorielle.
J'avais entendu parler de donc ce qu'il avait fait à l'écho des savanes. Ce que je suis en train de dire, donc, c'est que Gottlieb, Bretécher et Mandrika sont comme on va auto-éditer un numéro, on va se permettre de faire des mm-hmm. trucs plus lâchés, plus adultes, on va se défouler. Et en fait, là, les premiers numéros ont vendu en malade. Rapidement, les exemplaires se sont écoulés. Il y a eu un truc qui s'est mentionné, mais c'est des questions légales et commerciales qui, moi, en tant que chercheur littéraire, fan de bande dessinée, ne m'intéresse pas vraiment. Surtout que c'est un peu des conflits personnels, mais apparemment, Mandrika a un peu essayé de tasser les deux autres. Donc, c'est pour ça que l'écho des savanes, rapidement, s'est cassé la gueule.
Oh.
Mais a révélé, en fait, l'intérêt que pouvaient avoir les lecteurs pour de la bande dessinée adulte.
Ouais.
Parce que c'est carrément, justement, là, l'arrivée de... Bon, on va faire des trucs, il va y avoir des pénis, il va y avoir du sexe, on va se lâcher. Et Gottlieb, qui était toujours un peu à la frontière de ça, tu sais, qui faisait des choses qui étaient vulgaires, mais tu sais, c'était des pets et des rots. Oui, c'est pas... ça. Là, il commence justement...
Des érections puis des trucs de même.
Là, il commence Rare Lovely, puis c'est un récit où il y a un type qui s'endort et qui se réveille dans une espèce de bois où il y a toutes les créatures, mais il y a toutes là, des personnages, des contes, tu sais, des Fables de la Fontaine, tout ça. Donc là, ça commence avec le petit pousset et ses frères. On voit le petit chaperon rouge et le loup. Puis c'est comme, c'est du sexe, là, mais comme des bites en érection, puis tu sais, des éjaculations, tout ce que tu veux. C'est vraiment, là, comme...
Ça, tu me le penses, moi, je suis curieux.
Ouais, ouais, ben en fait, regarde, parle, je vais aller te le montrer.
Ouais, non, c'est ça, c'est quand même... Je sais pas, j'ai pas... Les, j'ai... C'était comme un...
J'ai pas lu au complet, parce que moi, je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai... Je me suis un peu tanné de ça. Ben, faudrait peut-être que je les relise, là. J'essaie de les relire, les Rare Lovely, mais j'ai jamais lu au complet parce que je trouvais pas que ça servait. Je trouvais que Gottlieb était assez controversé et assez. Comment dire. C'est quoi le mot, là?
C'était comme, oh shit, il y a quelqu'un qui est en train de chier sur un bureau.
Mais non, mais c'est ça, là. C'est vraiment. C'est Gottlieb, en fait, qui l'a. Puis en plus, c'est que c'est d'un symbolisme tellement évident et ennuyant, comme là, justement, à un moment, il dit « Ah, ben là, j'ai envie d'aller chier », donc là, il va dans un bureau, il parle à son docteur, il enlève ses cheveux et son crâne est fait d'un cul,
ouais, ouais.
Donc là, il chie par la tête. Hmm. Puis t'es comme « Ben, ok ». Puis comme, c'est ça, tu sais.
C'est ça, c'est pour ça que je trouve qu'à un moment donné, on commence à perdre la subtilité, puis était assez... Oh, le mot que je cherchais, c'est transgressif. Ouais, je trouvais qu'il n'y a pas besoin de ça pour être transgressif.
Oui, c'est ça, il était drôle sans y aller dans des...
C'est ça, mais tu sais, c'est cool cheap, pour lui qu'il voulait faire ça, il l'a fait, là.
C'est ça, parce qu'en même temps, tu sais, c'est quand même un art un peu difficile à manipuler, je pense, la transgression, parce que... qu'il fasse des choses où, tu sais, c'était clin d'œil, wink wink, nanana, on sait de quoi tu parles dans Pilote, c'était intéressant d'un peu, tu sais, comme pousser les limites, mais là, les défoncer comme ça, puis faire des choses, c'est comme, ben, puis lui, quand il en parle dans ma vie en vrai, il dit, tu sais, je me limitais dans mon dessin, je me rendais jamais jusque-là, puis là, je me suis dit, ben, je vais tout le faire d'un coup.
Mm-hmm.
Puis il consacre, non, en fait, on lit dans ma vie en vrai, que lui en parle beaucoup, ça a été important pour lui, à l'époque, il voyait un psychanalyste, fait que là, il a fait sa thérapie sur papier, puis ça lui, ça lui a fait du bien, parce qu'il a vraiment, il s'est gâté en faisant ça, mais comme tu dis, lui, ça avait peut-être fait plaisir, mais nous, en tant que lecteur, oui, d'un côté, il y a, ben là, nous, on trouvait que t'étais, tu sais, le gars cool, mais là, t'es dans une déchéance qu'on va pas te suivre jusque-là, tu sais.
T'es un peu inquiétant, là.
C'est ça, mais c'est comme s'il disait, tu sais, c'est lui qui t'a initié à la drogue en te faisant fumer des joints, fait que là, tu trouvais ça le fun, puis là, il est comme, OK, là, la semaine prochaine, on fait de l'héroïne, puis t'es comme, wow!
Attends une minute,
qu'est-ce qui s'est passé, tu sais?
C'est vrai que c'est un peu l'effet que ça me donne.
Ah non, c'est éprouvant à lire, parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête de craquer?
Hey, man, il y a quand même un très belle planche, j'avais jamais vu ça, qui s'appelle « Il me faut créer... Je dois créer seul, il me faut créer seul » où il tabasse un gaufrier.
Oui, oui, c'est ça. Là,
c'est, ben, excusez ben, les termes techniques, là, mais il une page avec des cases, une page blanche de bande dessinée, et il la frappe à coups de poing en l'appelant « caca » et « oh, comme je te hais ». Tiens, prends ça, canaille.
Ben, c'est intéressant, là, parce que le récit que t'es en train de lire, justement, où là, c'est Gottlieb qui se met en scène, puis il est un peu différent, il a les cheveux un peu plus longs, c'est comme un simili-molette, là. Ça se dirige vers la coupe Longueuil, il y a des favoris, il y a une espèce de débardeur en poil de chèvre, t'sais, il veut se montrer un peu plus, là, hippie. Et là, donc, justement, il va avoir du sexe, puis accomplir un peu ses perversions, il va voir la coccinelle qui sort dessus, il voit une image de lui comme homme d'affaires, puis comme votant, tu sais, je t'haïs, je veux faire ce que je veux. Là, il y a son espèce de drame de « je veux créer, je veux faire ma grosse œuvre, je vais enfin me libérer », tu sais, puis là, justement, Dieu lui apparaît, puis Dieu dit « ah, faut que t'arrêtes de faire des pets », tu sais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que toute sa vie, Gottlieb a voulu, c'est un fan de cinéma. On voit d'ailleurs dans son éducation visuelle qu'il allait au cinéma constamment, puis il travaillait. Mais il a toujours voulu faire des films. La seule sortie vers le cinéma qu'il a eu, la direction, il y a eu deux tentatives de cinéma en fait. Il y a eu un film Super Dupont qui a été un bide total en fait. Là, il y avait premièrement parce que c'était assez mal financé, puis deuxièmement les gens qui ont embarqué sur le projet ont commencé, ils sont juste dit ben Gottlieb est populaire, si on met ses personnages dans un film, ça va être bon. Et en fait, pour expliquer lui-même, il relate une anecdote qui montre bien comment ce projet était voué à l'échec. Super Dupont, dans une de ses premières apparitions, il se tient donc là bien droit avec un coq appuyé sur l'avant-bras pour montrer un peu comme, bon, tu sais, c'est mon symbole français qui est avec moi. Donc là, dans les cases suivantes, comme le coq est parti, il y a des bandages et sparadraps à l'endroit où le coq a planté ses griffes, parce que logiquement, ça avait fait des trous. Donc là, il y a des sparadraps qui sont là pendant quelques cases. Ensuite, ça part. Et là, quand il est allé sur le plateau de tournage, il a vu les maquilleurs en train de mettre des pansements sur l'avant-bras de Super Dupont, puis il a fait comme, pourquoi vous mettez des pansements, tu sais? Mm-hmm. Il a dit, ben, c'est comme ça que vous l'avez dessiné. Puis il était comme, ouais, mais est-ce qu'il y a une scène avant où il y a un coq qui est accroché là? Ils sont comme, non, pourquoi? Puis il a fait, ok, là, vous faites une adaptation qui est assez, assez minable, tu sais.
Mm. C'est intéressant, je te ramène ça, on continue à parler.
Mais il a joué aussi dans quelques films. J'ai pas la liste sous les yeux.
Ouais.
Mais, dans une couple de films, mais selon moi, la synthèse entre Gottlieb et le cinéma, c'est les Monty Python. Même, il était contemporain. Là, mm-hmm. Mais,
Ils les ont rencontrés,
puis il a même fait il a dessiné une affiche pour la version française de leur premier film, là, And Now for Something Completely Different. Fait que je trouve ça intéressant qu'ils soient arrivés en même temps et que leur type d'humour se ressemble autant.
Mais il y a quelque chose qui est drôle, en fait, c'est que même s'il y a eu donc des expériences, mais des mauvaises expériences, la fin du récit dont on parle, où justement Jean-Michel disait « je veux créer », quand il s'assoit, après avoir donc détruit la bande dessinée en donnant un coup de poing dedans, il va aller dire là maintenant, puis là, une espèce de séquence là, justement où il rejette le truc commercial, puis il va avoir une espèce de supériorité morale, il va s'insérer à sa planche de travail, et là, on a des phylacteurs où on sent des réalisateurs qui parlent et qui, là, qui le cadrent. Ouais. Comme bon, là, je vais m'installer et travailler. Et là, c'est le cinéma qui s'injecte. Mais à la toute fin, Gottlieb va dire « Putain, vous me faites chier avec vos projecteurs » et lance sa bouteille d'encre dans la case qui se fracasse et qui finit donc sur une case noire.
Ouais.
Donc, c'est une espèce de... J'aurais le droit maintenant de faire du cinéma, mais je reste dans la bande dessinée. Puis c'est la bande dessinée qui a le dernier mot parce que, tu sais... La case noire, c'est l'angle qui prend le dessus, là.
Puis il fait la même chose aussi avec la musique. Je veux dire, Monty Python, c'est un bon parallèle, mais moi, pour moi, Gottlieb, c'est Frank Zappa.
Ouais, c'est vrai.
C'est des gens qui ont été très, très, très influencés par la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes, puis qu'il y a un moment qu'ils ont fait « Ouais, mais il faut qu'il y ait plus. » Tu sais, Frank Zappa, « Can music be... »« Can music... »« Does humor belong in music? » Excusez, c'est ça la formulation... correct de Frank Zappa, c'était ça. T'sais. Est-ce que l'humour a sa place dans la bande dessinée non jeunesse, si on peut dire? C'est les mêmes préoccupations. Puis bon, Gottlieb, on sait qu'il faisait beaucoup d'usage de la musique qu'il écoutait. C'était des pastiches des Beatles, il y avait des pastiches de comme plein.
Gabriel vient de me montrer un dessin de Frank Zappa, justement. Ouais.
Ah oui,
c'est ça, c'est l'écho des savanes, et après ça, dans Fluide glacial, il y a comme... T'sais, le rubrique à braque, en fait, son héros de jeunesse à Gottlieb, c'est Brassens.
Okay.
Puis t'sais, là, on dit ça, puis c'est comme, oui, c'est sûr, oui. T'sais, Brassens qui est comme, genre, il fait sa petite musique traditionnelle, mais t'sais, c'est super grivois, etc., mais tout en étant assez brillant, t'sais. Puis là, c'est ce qu'il a fait dans la rubrique à braque. Puis là, il a découvert Zappa, il a découvert le rock, t'sais, plus psychédélique, halluciné, puis il a dit, je vais faire mes autres trucs.
Ouais.
Il a, pendant un moment, il faisait une collaboration dans un magazine, je pense que c'est, je sais pas si c'était Les Inrecuptibles ou un équivalent de l'époque, mais faisait comme des critiques de disques sous forme de bande dessinée.
Ah, oh, ouais.
Ouais, qui ont été recueillis aussi là, en album.
Parce que, tu sais, tous les segments assez érotiques au début, ça me fait penser à Catholic Girls de Frank Zappa. C'est vraiment le même twist sur la sexualité. Puis, pas tout à fait trop vulgaire, mais quand tu le regardes comme il faut, c'est crissement vulgaire.
Mais en même temps, comme. C'est ça, donc c'est moi ce que je trouve en fait assez étonnant, c'est que l'envol qu'a pris Gottlieb avec Les Côtes des Savanes, avec Fluide glacial, qui est donc justement beaucoup plus grivois, à la limite vulgaire, insupportable, là, je veux dire, voir Gottlieb faire caca ou se masturber, ça m'intéresse pas, mais se permettre de faire ça, ça a quand même ouvert la porte à, tu sais, Edika, Goussen, ceux qui vont devenir les stars de Fluide glacial. Ça coïncide dans la montée de ces artistes-là qui sont vraiment des héritiers de Gottlieb, qui font mieux que lui ce que Gottlieb essayait de faire en touchant dans le vulgaire. Ça coïncide avec le moment où Gottlieb a dessiné « Ben moi, je dessine plus ». Parce qu'à partir des années 80, presque rien, là. Vraiment presque rien. Il fait des illustrations de temps à autre. mais c'est peut-être une ou deux fois par année. Il y a des gags dans Fluide glacial, quand ça revient, c'est assez plate, en fait. Là. C'est un peu triste à dire, mais comme j'en ai lu une couple, je suis comme...
Ah, mais il semble que ses dernières planches, c'est dans les années comme 84, 85, puis après ça va ajouter des illustrations, effectivement.
Mm. Puis, ben, c'est peut-être par sa surproduction, il y en a tellement ouais, fait qu'à un moment qu'il a fait comme... Hey, that's enough, mais y a-tu des vraiment... y a-tu des entrevues post-retraite où y a-tu vraiment expliqué pourquoi il a arrêté?
Mon souvenir est vague sur la chose. Il y a Louis Trondheim qui a fait un album qui s'intitule Désœuvré, où il parle de comment il y a toujours une crise de la quarantaine, et Gottlieb figure rapidement. Mais si mon souvenir est bon, quand Trondheim va rencontrer Gottlieb, et Gottlieb est comme moi, non, j'en fais plus.
Ok, c'est si simple que ça.
Il se sent absolument pas le besoin de se justifier.
Wow, ouais, c'est quand même intéressant ça.
Pis c'est quand même aussi, je pense, une des tendances là. À partir de la rubrique à partir du moment où Goscinny a dit vol de tes propres ailes, Gottlieb a toujours été comme ça. Je me justifierai pas, je vais faire ce que je veux. T'sais, cette attitude frondeur là, c'est ce qui fait que la rubrique à braque c'est le fun. C'est ce qui fait justement de je vais faire l'inverse, je vais faire la connerie, je vais faire un texte qui va mener à un jeu de mots à la con, où je vais décider cette semaine de faire un truc sur le boulet ou de vous parler de l'Holocauste en douce, t'sais. D'envoyer chez les lecteurs, à la limite là, dans le texte, comme pourquoi vous me posez ces questions-là, et puis allez vous faire foutre, je m'en vais chez moi. T'sais. Donc là, à la fin, c'est tellement conséquent de dire bon ben je dessine plus. Puis si vous avez des questions, ben adressez-les. T'sais, envoyez-moi une lettre de plainte, je la lirai pas.
Wow.
C'est tout.
Hey, merci énormément. C'était très agréable de mélanger l'humour et le sérieux avec vous autres. Et c'est la conclusion de l'émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'embarquais là-dedans. Boris, tu peux remettre tes pantalons.
Oui, merci. Puis c'était trop court. Je parle de l'émission, pas de mes pantalons. Mais j'en aurais pris une autre heure.
Moi aussi, j'aurais pris une autre heure de tes pantalons.
De mes pantalons, oui.
Bonne semaine, tout le monde. Merci beaucoup, Gabriel, pour l'émission.
Ben, pourquoi?
Juste Gabriel?
Ouais, c'est ça. C'est
mais non, mais j'ai dit merci, il y a comme deux
secondes. Ah, okay. Ça comptait tantôt.
J'ai dit merci Boris, puis là, j'étais comme, ben, je veux, faut, je veux pas juste dire merci.
OK, bye.
Bye. Mama's ever seen him.